Merci Maïlys et on vous retrouve lundi pour un nouveau numéro d'Entendez-vous l'écho.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui jeudi, nous revenons sur la parution chez Stock en différents volumes des œuvres complètes de Carson McCullers. Point d'orgue à cette semaine spéciale qui vous aura donné, nous l'espérons, des idées de livres à mettre sous le sapin. C'est une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Chloé Casmarec et Pierrick Monsigny. Des parutions d'œuvres complètes, il y en a eu en 2017 davantage que nous n'avons pu en traiter, et cette semaine d'avant les fêtes était une bonne occasion de revenir sur certaines d'entre elles. Lundi, Philippe Jaworski est donc venu nous parler de Philippe Ross, qui a eu les honneurs en octobre dernier de la collection La Pléiade chez Gallimard. Mardi, c'est Claude Arnaud qui est venu nous parler de son anthologie de portraits d'écrivains, Portraits crachés, paru en septembre dernier chez Bouquin Lafond. Et enfin hier, nous étions encore chez Bouquin Lafond pour évoquer d'abord la reparution du journal complet de Mathieu Gallet et puis les œuvres complètes de Bret Easton Ellis. C'était avec Jean-Luc Barré et Cécile Gilbert. Et aujourd'hui, aujourd'hui donc, nous complétons par un autre volet une première émission sur Carson McCullers diffusée en octobre dernier. Mon invité était à l'époque Josiane Savigno. Vous pouvez réécouter évidemment cette émission en podcast. Mais aujourd'hui, eh bien, nous serons en seconde partie avec l'écrivaine Véronique Ovaldé pour évoquer Le cœur est un chasseur solitaire, ce roman de Carson McCullers. Et pour commencer, eh bien, nous sommes en compagnie de Marie-Claude Perrin-Chenour, maître de conférences à l'université Paris-Nanterre et spécialiste des romancières américaines. Elle vient nous éclairer sur le cas McCullers et en particulier sur Frankie Adams. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. I may not want to admit it. I'm just a fool for your stockings, I believe.
It happened that green and crazy summer when Frankie was 12 years old. It was a summer when for a long time she had not been a member. She belonged to no club, and she was a member of nothing in the world. Frankie had become an unjoined person who hung around in doorways, and she was afraid. In June, the trees were bright, dizzy green.
La voix de Carson McCullers disant Frankie Adams. Bonjour Marie-Claude Perrin-Chenour.
Bonjour.
Je me suis trompé, j'ai dit que vous étiez maître de conférence, mais vous êtes professeur à l'université Paris-Nanterre. Toutes mes excuses. Avez-vous reconnu dans l'enregistrement qu'on vient d'entendre de la voix de Carson McCullers l'accent du sud? Parce qu'il paraît qu'elle avait un accent assez fort.
Elle a un accent assez chantant, effectivement. Peut-être pas très marqué, mais oui, assez caractéristique, en effet. Et son œuvre est tellement sudiste que ça n'est pas surprenant.
Tellement sudiste, ça veut dire quoi ?
Tellement sudiste, c'est qu'on y retrouve des thématiques qu'on trouve souvent dans les romans du sud des États-Unis, qu'on trouve déjà dans la littérature depuis Poe, et puis qu'on retrouve aussi chez Faulkner, par exemple. Un des thèmes souvent utilisés dans cette littérature sudiste, c'est une littérature violente. Vous l'avez vu peut-être avec Flannery O'Connor, les personnages ont des relations violentes, les personnages eux-mêmes sont souvent grotesques, c'est le terme qu'on emploie, mais ils sont caricaturés, ce sont des infirmes, des personnages étranges, des géantes, des nains bossus, etc. Et on en trouve toute une série comme ça dans son œuvre. Et ils évoluent aussi dans des lieux particuliers. Par exemple, il y a un topos de la littérature sudiste qui est la grande maison
un peu hantée.
Voilà, un peu effrayante, un peu hantée. Visuellement, elle fait penser à ces tableaux de Hopper, d'Edward Hopper, qui sont des maisons anthropomorphiques. Elles sont éclairées de l'intérieur, elles ont des fenêtres comme des yeux, elles ont un côté menaçant, il y a une sorte d'étrangeté inquiétante.
C'est la maison de psychose aussi.
Voilà, c'est ça, exactement. Et si vous pensez aux descriptions des maisons, par exemple, chez Carson McCullers, elle regarde souvent de l'extérieur, justement, de la même façon. On voit le carré de lumière jaune qui se découpe sur la cour ou sur la rue à travers la fenêtre, parce que l'héroïne regarde la maison de l'extérieur, et la maison, on ne voit pas les gens, on entend les bruits, etc. Il y a toujours quelque chose d'un peu inquiétant, d'un peu menaçant, qui est mal défini et qui est assez caractéristique de ça. On le trouve déjà chez Poe, avec la maison Usher.
On peut le trouver aussi chez Truman Capote, qui était un ami Carson McCullers, au moins dans ses premiers romans.
Oui, on le trouve aussi chez un autre ami de Carson McCullers, qui était Tennessee Williams. Mmh. La maison hantée, elle vient aussi dans le sud représenter souvent la grande maison patricienne, celle de la plantation, la maison des planteurs. C'est la maison de Belle Rêve dans un tramway nommé Désir. Une maison qui devient fantasmatique, en fait, mais qui est à la fois très belle et en même temps qui cache, évidemment, le lourd secret, le péché originel du Sud, qui est l'esclavage. Mmh. Et c'est un sujet qui est traité par Flannery O'Connor aussi, qui est traité par Carson McCullers, par un autre biais, parce qu'elle le voit plus du point de vue des Noirs, et moins du point de vue des Blancs.
Elle est hantée aussi, Carson McCullers, par ce péché-là.
Je pense qu'elle est hantée par tous ces sujets, parce qu'ils sont tous présents dans son premier roman. Le cœur est un chasseur solitaire. Toute son œuvre est contenue dans ce premier roman. C'est pour ça qu'il est si important, d'ailleurs. Et on lui a reproché, à l'époque, d'avoir fait quelque chose d'un peu trop foisonnant. Mais après, elle a tiré des fils à partir de ce roman-là, parce qu'il y avait la matière à au moins 3 ou 4 romans dans ce premier. Et je pense que Frankie Adams, c'est ce qu'elle a fait de mieux. C'est mon point de vue, je ne sais pas, il est souvent partagé quand même par les critiques, parce qu'elle a justement concentré son regard sur un de ses personnages, un aspect du premier roman, Le cœur est un chasseur solitaire.
Alors, comme on parlera tout à l'heure avec Véronique Ovalde de ce roman, Le cœur est un chasseur solitaire, parlons avec vous de Frankie Adams. C'est son troisième roman, où est-ce qu'elle en est, Marie-Claude Perrin-Chenourde, dans son parcours d'écrivain au moment où elle se met à la rédaction de ce livre?
Alors, bizarrement, elle écrit des romans deux par deux. Elle avait écrit en même temps Le cœur est un chasseur solitaire, l'a écrit son deuxième roman, et en même temps qu'elle écrit Frankie Adams, elle écrit aussi La balade du café triste. Et en fait, il y a des points communs entre les deux pères, en fait. Et il y a des points communs entre Frankie Adams et La balade du café triste. Et entre autres, il y a des points communs stylistiques, structuraux, c'est-à-dire que tous les deux sont construits, ce sont des romans courts. Et ils sont construits, moi je dirais comme des tragédies. Enfin, ils sont construits en tout cas comme des pièces de théâtre. D'ailleurs, ils ont été assez faciles à adapter pour le théâtre. Les deux l'ont été. Frankie Adams a été adaptée par Carson McCullers elle-même. Et La balade du café triste par Edward Albee. Elle avait travaillé pour Frankie Adams sur les conseils de son ami Tennessee Williams, et je crois qu'il l'avait déjà influencé quand elle a rédigé et quand elle a composé ce roman, parce que il a une structure parfaite. Il est en 3 parties comme 3 actes. Il a une unité de temps, il se passe en un week-end, une unité de lieu, tout pratiquement se passe dans la petite ville qui n'est pas nommée, mais dont on sait que c'est plus ou moins Columbus, sa ville natale en Géorgie. Et une unité d'action, c'est le week-end de la transformation du personnage, celui où sa vie va basculer, et pas forcément de manière positive.
Alors, je vous propose d'écouter le témoignage de Maurice Edgar Coindreau, ou même plutôt l'analyse, parler des personnages de Frankie Adams.
Vous remarquez remarquerez aussi qu'aucun des personnages de Carson McCullough est sans défaut, même une petite tare physique. Les uns sont boiteux, les autres sont bossus. Il y a toujours une tare qui est là, comme une sorte de péché originel, et qui, naturellement, contribue à donner cette impression de société étrange, presque un peu maladive. Ces romans sont extrêmement morbides. Une morbidité très esthétique, très adroitement faite, mais enfin qui est là tout de même. Par exemple, la chose la plus impressionnante, c'est que tous les personnages, quelquefois à cause de ces déformations, soit psychologiques, soit physiques, sont également des personnages complètement seuls et qui souffrent de cette solitude. À ce point de vue-là, je crois que le roman qui s'appelle Member of the Wedding en anglais et qu'on a abominablement traduit par Frankie Adams, qui est le nom de la petite fille, est un roman absolument merveilleux.
C'est celui que vous préférez ?
D'elle ? Non, je crois que je préfère Les Reflets dans un œil d'or parce que tout Carson McCullough y est. Tandis que dans Frankie Adams, enfin dans ce roman que moi j'aurais appelé L'invité à la noce, puisque c'est ça, le Member of the Wedding, d'une petite fille qui meurt de douleur à l'idée qu'elle n'est pas invitée au mariage de son frère, eh bien, c'est évidemment un exemple de solitude que vous ne pourriez pas trouver, sauf dans des personnages comme celui-ci, un personnage aussi étrange et aussi complexé. Elle a comme contrepartie une vieille servante noire à qui elle confie ses peines, puis elle se sauve, il lui arrive des choses extraordinaires. Elle rencontre un jour un soldat qui l'emmène chez lui, enfin dans une chambre qu'il possède, qui devient un peu trop familier avec elle. Alors, elle saisit le pot à eau, il lui donne un grand coup de pot à eau sur la tête, puis elle s'en va tout tranquillement, comme s'il ne s'était rien arrivé.
Maurice Edgar Coindreau au micro de Christian Giudicelli qui parlait donc du personnage de Frankie Adams. L'action, c'est ça se passe à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. On le sait parce qu'il y a des échos.
C'est l'été 44.
Voilà, de la libération qui approche. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord avec ce que disait Maurice Edgar.
Non, il y avait une chose sur laquelle je n'étais pas complètement d'accord. Il voulait traduire le titre par l'invité au mariage.
À la noce.
Ou à la noce. Mais l'invité, ça ne me paraît pas très juste parce qu'elle est invitée. Mais elle aurait voulu être au centre de. C'est ce que dit d'ailleurs le personnage.
Elle aurait voulu faire partie du couple, en fait.
Elle aurait voulu faire partie du couple. Elle voulait être au milieu, descendre l'allée centrale entre les deux époux. Et c'est ce que lui dit d'ailleurs la nourrice Bérénice, la nourrice noire, elle lui dit, mais tu ne penses qu'à toi, tu voudrais que tout le monde te regarde, mais c'est pas ta fête aujourd'hui, c'est pas ton jour. Donc, elle n'est pas invitée, enfin, elle l'est invitée plutôt, mais c'est pas ce qu'elle souhaitait. Elle voulait être un membre du groupe, c'est le titre en anglais. Alors, évidemment, c'est difficile à traduire, tel quel.
C'est vrai que les personnages de Carson McCullers ont un côté un petit peu centré sur eux-mêmes quand même, de manière générale, et ils se regardent beaucoup, en fait ils ne font que ça, en fait ils ne font que s'apitoyer sur eux-mêmes plus ou moins.
Oui, ils sont complètement solipsistes et ils sont enfermés et sur leurs propres préoccupations et en fait même lorsqu'ils se critiquent sur ce point, parce que lorsque Bérénice critique Frankie Adams en lui disant qu'elle est trop auto-centrée, elle se comporte de la même façon, tous les personnages sont comme ça, et c'est encore plus flagrant dans Le cœur est un chasseur solitaire, où ils croient tous parler à une personne qui les comprend, mais en fait, ils parlent à un miroir, ils se parlent à eux-mêmes, ils se regardent. Et Frankie Adams, c'est le même genre de personnage, mais ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle est dans une période d'évolution, c'est une période de transition de sa vie, un entre-deux, et ça, c'est très bien rendu aussi par la structure, parce que la structure, elle n'est pas seulement construite comme une pièce de théâtre en trois parties. Les trois parties correspondent aussi à trois moments de sa vie. Le passé récent, le premier jour du week-end, c'est le vendredi. Mais c'est une occasion de résumer tout ce qui s'est passé dans les 12 ans qui ont précédé, et surtout au printemps précédent où son corps s'est transformé, elle est devenue très grande. Il y a des côtés un peu comiques dans la description. Elle s'imagine que si elle continue à grandir à cette allure, à l'âge de 18 ans, elle fera 2,77 m ou quelque chose comme ça, voilà. Donc, bon, ça, c'est un clin d'œil au lecteur, parce que elle est très effrayée, c'est le terme qui revient tout le temps. Elle a peur, elle, de ces transformations qu'elle voit dans son corps, dans son comportement. Mais le lecteur sait que ça ne va pas se passer comme ça. Donc c'est un ressort comique, en fait.
Mais justement, ce côté très affectif que les personnages portent sur eux-mêmes, ce regard très affectif et plein d'une forme de tendresse pour eux-mêmes qui les rend aussi attachants, c'est peut-être ça qui fait une partie du pouvoir de la prose de Carson McCullers. C'est que forcément, on est avec eux, on est aussi de leur côté, et puis tout le monde se retrouve adolescent dans, en effet, ce rapport à soi-même un petit peu difficile et aussi un petit peu narcissique. Donc c'est à la fois ce qui fait sans doute toute la chaleur de ce texte, et c'est en même temps ce qu'on peut reprocher à Carson McCullers, et ce qu'on a reproché à Carson McCullers, insinuant que c'était à cause de cela une littérature peut-être un peu mineure, Marie-Claude Perrin-Chedon.
Alors, Flannery O'Connor disait qu'elle était trop sentimentale. Alors peut-être qu'elle a trouvé que ce qu'elle écrivait était trop psychologisant ou trop centré sur la psychologie des personnages. C'est vrai, et en même temps, c'est pas complètement vrai. Ils sont aussi vus de l'extérieur, comme on disait tout à l'heure, mais tout le monde peut s'y reconnaître parce que c'est un thème universel. Et d'ailleurs, elle ne le traite pas qu'à travers le personnage de la petite fille. Il y a aussi son petit cousin qui passe l'été avec elle. Et la période de transition qu'elle est en train de traverser, il la traverse aussi. La première partie le premier chapitre est intéressant parce que c'est celui de l'enfance et celui de tous les possibles. Et il est caractérisé pour elle par le fait que elle s'appelle Frankie, qui est un prénom qui veut être le diminutif de son véritable prénom à l'état civil, qui est Frances, mais qui pourrait être un prénom de garçon. Et c'est un personnage complètement androgyne. Elle est habillée comme un garçon, elle a les cheveux court, etc. Et son petit cousin qui est avec elle, lui, même chose, il a une sorte d'identité instable, il joue avec sa poupée, il porte les talons hauts de Bérénice, la nourrice.
Il est tout le temps dans ses jupes, d'ailleurs, ce qui agace beaucoup la jeune Frankie.
Voilà, et d'ailleurs, quand il rêve à un monde idéal, s'ils étaient Dieu, par exemple, comment ils auraient amélioré la création telle que Dieu l'a fournie, ils auraient, par exemple, tous les deux décidé qu'à un moment, alors Frankie, elle dit que on pourrait être homme ou femme, comme on veut, à tout moment. Et lui dit non, on serait plutôt moitié homme, moitié femme, parce qu'il a vu les phénomènes de foire qu'on montrait dans le sud des États-Unis, encore jusqu'au milieu du XXe siècle, qui était le personnage de l'hermaphrodite.
Donc il y a un côté queer. Vous employez d'ailleurs le mot queer, mais c'est pas dans le sens de la queer theory qu'il faut entendre ce mot-là de queer, mais c'est parce que ces personnages de Frankie Adams sont en effet des personnages un peu à côté, un petit peu monstrueux par leur solitude.
Oui, leur solitude, mais ils sont tous seuls. Tout le monde est seul. En fait, ces enfants ne sont pas monstrueux. Frankie pense qu'elle pourrait être un phénomène de foire, mais nous, on comprend bien que ça ne sera pas le cas. Ils sont simplement dans une phase de leur vie où ils pensent que tout est possible et tout peut arriver, le pire comme le meilleur. Toutes les options sont ouvertes. Voilà. Et la tragédie du roman, c'est qu'au contraire, toutes ces options vont se refermer à un moment et que leurs choix vont se figer. Et c'est pour ça qu'à la fin, lorsque Frankie aura compris qu'elle ne pouvait pas faire partie du mariage de son frère, qu'elle ne pouvait pas l'accompagner dans son voyage de noces, etc., ça va être une tragédie absolue, elle va être désespérée, mais surtout, après, elle va changer complètement. C'est la troisième partie qui se situe à l'automne, plutôt, et où elle va devenir un personnage ordinaire, banal. C'est une normalisation de son comportement, mais qui est un peu tragique, parce que tout ce qu'elle avait aimé avant, elle va le rejeter. Sa nourrice, de qui elle était très très proche, et avec qui elle voyage au fond de l'autobus en revenant du mariage, parce que le Sud est encore ségrégué, et si on veut être assis à côté d'un noir, il faut se mettre au fond de l'autobus. Elle regarde tous les gens qui sont autour d'elle, et pour la première fois, elle dit « ce sont tous des nègres ». Ce terme qu'elle avait jamais employé avant, puisqu'on voyait qu'il y avait une véritable empathie, alors pour le coup une sympathie entre ces deux personnages. Et là, elle les traite de « niggers », ce qui en anglais est encore plus péjoratif, je crois même, que le terme français.
Donc c'est là, la sortie de l'enfance
Sortie de l'enfance, c'est une normalisation, elle va s'intégrer, elle va devenir, elle qui n'était membre de rien, là tout à coup elle va devenir membre de quelque chose, mais d'une société dont elle va adopter tous les stéréotypes et tous les préjugés, et elle ne sera pas le personnage sympathique qu'elle est à la fin, qu'elle était au début.
Alors je reviens quand même sur ce terme de queer qui signifie étrangeté. C'est aussi l'étrangeté des dessins qui sont faits dans la cuisine par les enfants. Marie-Claude Perrin-Chenot, racontez-nous ça.
Oui, alors... Carson McCullers aimait beaucoup utiliser comme métaphore une autre de l'écriture, je veux dire, une autre forme d'art. Dans Le cœur est un chasseur solitaire, c'est surtout la musique. Le personnage qui est l'équivalent de Frankie Adams, Mick Kelly, elle est fascinée par la musique, elle ne sait pas déchiffrer, mais qu'elle voudrait pouvoir écrire, etc.
Rappelons qu'elle-même avait voulu être musicienne.
Absolument. Mais ce qui me frappe plutôt dans Frankie Adams, c'est que bien qu'il y ait aussi des moments musicaux, l'expression artistique qui est le plus souvent utilisée, c'est la peinture. Effectivement, les deux enfants passent leur temps à peindre ou à dessiner sur le mur de la cuisine. Ils projettent leurs fantasmes, ils projettent leurs rêves les plus effrayants, etc. Mais l'écriture de Frankie Adams, elle est aussi très visuelle. Je parlais tout à l'heure des fenêtres, de l'encadrement des fenêtres. Elle est toujours, parce qu'elle est dans une période de transition, elle est toujours présentée comme sur le seuil d'une porte, d'une fenêtre. Et elle regarde dans l'encadrement comme quelque chose qui apparaît comme un tableau, tout à coup. Et l'écriture est très colorée, très visuelle.
On va écouter un extrait de Frankie Adams, où elle évoque justement la question de la solitude, qui est tout à fait au cœur du roman.
La veille encore, et pendant les 12 années de sa vie, elle n'avait été que Frankie. Rien de plus. Seulement quelqu'un qui disait « je » et qui allait seul, et faisait les choses elle-même. Tout le monde pouvait se rattacher à un « nous ». Tout le monde, sauf elle. Quand Bérénice disait « nous », elle voulait parler de Honey, de sa vieille grand-maman, de sa maison, de son église. Pour son père, le « nous », c'était sa boutique. Tous ceux qui étaient inscrits à un club appartenaient à un « nous » et pouvaient en parler. Les soldats d'un régiment pouvaient dire « nous » et même les bagnards enchaînaient les uns aux autres. Mais l'ancienne Frankie n'avait aucun « nous » auquel se rattacher. Sinon celui qu'elle avait formé avec Bérénice et John Henry tout au long de ce terrible été-là, et c'était le dernier des « nous » qu'elle désirait au monde. Mais brusquement, tout était fini. Tout avait changé. Il y avait son frère et la fiancée de son frère. Et à la seconde même où elle les avait vus, quelque chose s'était éveillé en elle. Une soudaine révélation. Ils sont tous deux mon nous à moi.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Carson McCullers avec vous, Marie-Claude Perrin-Chenour. Alors, il y a un petit passage qu'on pourrait évoquer, c'est quand elle donne son sang pour la Croix-Rouge, ou plutôt qu'elle voudrait donner son sang pour la Croix-Rouge. Je rappelle qu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Ça aussi, ça la rend attachante.
Oui, ça va avec son désir d'être un garçon. Elle voudrait être un soldat, elle voudrait s'engager dans les Marines ou effectivement pouvoir donner son sang. Elle voudrait être plus âgée. Et elle voudrait faire partie de cette guerre, mais la guerre, par parenthèse, elle est en arrière-plan tout le temps dans le roman, puisque tout l'été, la radio fonctionne jour et nuit dans la cuisine où les enfants se retrouvent avec la nourrice. Et il y a en contrepoint des informations sur la guerre, des morceaux de musique. Il y a toujours ce balancement dans ses récits entre quelque chose de tragique qui est transcendé par l'art, par la beauté. Et
c'est aussi le mari de Carson McCullers, parti.
Oui.
En Europe,
qui était lui aussi un soldat, comme le frère de Frankie Adams, qui lui n'est pas parti à la guerre, mais est le soldat qu'elle rencontre, comme vous l'avez dit, dans la deuxième partie du roman, avec qui il y a une histoire qui pourrait se terminer très mal.
Et donc elle imagine que si elle donne son sang, alors ce sang pourra couler dans les veines des Australiens, des combattants de la France libre, des Chinois, et elle imagine que ces soldats pourraient un jour la rencontrer et l'appeler Adams et non pas Frankie. Et donc là, c'est, j'imagine aussi l'androgynie peut-être qui ressort, le côté masculin finalement de la camaraderie qu'on peut avoir avec des militaires.
Le soldat Adams. Mais cette histoire évolue, enfin cette histoire de nom évolue dans le roman, puisque dans la deuxième partie qui est la partie un peu romantique, celle qui se passe le samedi, où elle imagine ce que va être sa vie quand elle va accompagner son frère en voyage de noces, là elle a au contraire, elle a déjà basculé dans ce qui va être sa vie de jeune fille, et pour concrétiser ce rêve, elle change de nom, elle change d'identité, elle se fait appeler Jasmine, parce que son frère a un prénom qui commence par J-A, et sa fiancée aussi, donc ça lui permet d'être plus proche d'eux, évidemment, mais c'est aussi un prénom qui est beaucoup plus féminin, c'est un prénom de fleur. Déjà, donc plus romantique, plus sentimental.
Alors on va utiliser les quelques minutes qui nous restent, Marie-Claude Perrin-Chenot, pour parler d'un autre texte célèbre de Carson McCullers. C'est la ballade du café triste, dont voici un extrait.
L'amour est avant tout une expérience commune à deux êtres. Mais le fait qu'elle leur soit commune ne signifie pas que cette expérience ait la même nature pour chacun des deux êtres concernés. Il y a celui qui aime et celui qui est aimé. Et ce sont deux univers différents. Celui qui est aimé ne sert souvent qu'à réveiller une immense force d'amour qui dormait jusque-là au fond du cœur de celui qui aime. En général, celui qui aime en est conscient, il sait que son amour restera solitaire, qu'il l'entraînera peu à peu vers une solitude nouvelle, plus étrange encore, et de le savoir le déchire. Aussi, celui qui aime n'a-t-il qu'une chose à faire, dissimuler son amour aussi complètement et profondément que possible. Se construire un univers intérieur totalement neuf, un étrange univers de passion qui se suffira lui-même. Il faut d'ailleurs ajouter que celui dont nous parlons, celui qui aime, n'est pas nécessairement un jeune homme qui a mis de l'argent de côté pour acheter une alliance. Celui qui aime peut être un homme, une femme, un enfant, n'importe quelle créature au monde.
I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no loving. Never had no kissing. Lover man, where can you be?
La ballade du café triste, lue ici par Catherine Mouchet, Marie-Claude Perrin-Chenot. C'est peut-être pas une très bonne traduction non plus en français, la ballade du café triste, c'est très littéral.
Oui, c'est très littéral. C'est assez représentatif, je sais pas, ça me choque moins.
Ça vous convient.
Oui, moi ça me convient.
C'est assez terrible aussi sur l'amour, ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait.
Alors ça pourrait aussi bien s'appliquer aux relations des deux sourds-muets dans le premier roman.
Dont on va parler.
Ouais. Encore une fois, c'est un thème qu'on retrouve déjà dans ce qu'elle avait écrit au départ. C'est un trio aussi. Et ça aussi, on le retrouve souvent dans ces récits. Il y a un personnage qui aime un autre personnage, qui aime un autre personnage, et qui ne se regarde pas.
Donc c'est Miss Amalia qui tient... d'une main ferme, le café drugstore du village, qui est le personnage un petit peu principal de cette nouvelle.
Oui, c'est elle le personnage central. Elle est étonnante, mais on pourrait penser que c'est une Frankie Adams qui aurait effectivement tellement grandi qu'elle serait devenue une géante, puisque c'est une géante, elle est forte, elle est grande, elle est masculine aussi. Elle s'est mariée pendant peu de temps, mais avec quelqu'un qui était très amoureux d'elle, mais qu'elle ne regardait même pas. Et elle tombe inexplicablement amoureuse d'un nain bossu.
Un vrai queer, pour le coup, un freak.
Voilà, plutôt freak, mais oui. Mais effectivement, qui, lui, à son tour, tombe amoureux de son ex-mari. Donc, c'est plutôt circulaire comme relation, là, plutôt que triangulaire, mais enfin... aucun ne se comprend, mais tout le monde veut garder cette situation sans qu'elle bouge, sans qu'elle soit défaite. Ceux qui voient venir la tragédie, parce que ça aussi c'est un roman qui était écrit, ou une longue nouvelle qui est écrite comme une tragédie. Et là, cette fois, il y a un cœur derrière. On pourrait dire que dans Frankie Adams, le cœur c'est la guerre, mais là il y a les gens du village, les gens qui la préviennent, parce que c'est ce qui est censé c'est faire le cœur dans la tragédie, vous annoncer ce qui va se passer et prévenir le héros de sa future chute. Et bien sûr, elle ne l'écoute pas et la chute a lieu.
Et si on veut connaître la chute, il faut se procurer, qui vient de reparaître également chez Stock, le volume La Balade du Café Triste, qui comporte évidemment plusieurs nouvelles et pas seulement celle-ci. Merci Marie-Claude Perrin-Chenour d'être venue nous parler de Frankie Adams et donc de La Balade du Café Triste. Dans quelques minutes, nous retrouverons Véronique Ovaldé pour continuer à parler de Carson McCullers.
Carson, Flannery, and Jean are now sitting together in the green grass of an unknown paradise. They're turning to peaceful angels, their worries have all gone. The voyage in the darkness is far behind. Are no longer lonely hunters, but there are a good man is not hard to find. They wake me up with their laughter, their souls dance over my mind. They often knock on the gate of my day.
Carson, Flannery and Jean. C'est le titre de cette chanson de Marie Modiano. On ouvre maintenant la seconde partie de cette émission avec une archive de Jacques Tournier.
C'est un écrivain qui ne sait jamais où il va. Quand elle a commencé Le cœur est un jardin solitaire, qui est un gros roman, elle ne savait absolument pas ce qu'elle écrivait. Elle écrivait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle sortait des choses d'elle-même et elle ne savait pas. Et à un moment, elle se disait, je n'arriverai pas à faire un roman, il y a un certain nombre de personnages, donc je vais faire un recueil de nouvelles. C'est la même chose qui lui est arrivée quand elle a commencé Frankie Adams, où elle écrivait, et au bout d'un temps, elle se disait, tiens, je vais peut-être faire un recueil de nouvelles. Il y a trois personnages, il y a Bérénice, il y a Frankie et il y a le petit garçon. Je vais peut-être... Et c'est très étonnant. Et puis tout d'un coup, et elle le raconte d'une façon très claire, tout d'un coup, un jour, en traversant une rue ou en sortant dans la rue pour quelque chose, elle dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé, je sais. Oui. » C'est ce qu'on appelle l'illumination. Je crois qu'il y a très peu d'écrivains qui sont comme ça. C'est très, très particulier à elle. Il y a beaucoup d'écrivains, je crois, enfin, bon, qui, au fur et à mesure qu'un livre avance, commencent à comprendre où ils vont. Elle continue. C'est ça qui me frappe le plus. C'est qu'elle continue d'avancer sans du tout savoir où ça va.
In my solitude, you have me.
Bonjour Véronique Ovaldé.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous êtes comme Carson McCullers, selon Jacques Tournier? Est-ce que vous ne savez pas où vous allez quand vous écrivez des romans, ou est-ce que vous savez un petit peu?
Mais contrairement à Jacques Tournier, je pense que c'est beaucoup plus commun qu'il le pense. J'en discute avec mes amis écrivains et en ce qui me concerne, en fait, je pense que le fait d'avancer à tâtons, d'avancer aveuglément pendant très longtemps et d'attendre ce moment magnifique, cette illumination dont parlait Carson McCullers. Et je crois que Sally Smith, elle appelle ça le milieu du roman. C'est le moment où tout concorde. C'est-à-dire que vous sortez dans la rue, en fait, tout à coup, en fait, tout s'accorde, en fait, avec ce que vous êtes en train de faire.
Ou pas.
Ou pas. Alors, vous attendez ce moment, vous attendez. Parfois, ça vient pas. Hein. Mais en tout cas, je pense que le fait d'écrire aveuglément, c'est quelque chose, quand même, finalement, d'assez courant.
Alors, vous êtes romancière. Cette année, vous avez publié le conte intitulé « À cause de la vie » avec des illustrations de Johannes Fast aux éditions Flammarion. C'est un conte qui revisite l'amour courtois au temps de l'adolescence. Vous êtes également prix France Culture Télérama 2008 pour « Et mon cœur transparent ». Vous avez publié « Ce que je sais » de Vera Candida, « Des vies d'oiseaux », etc., etc. Et cette année, vous préfacez donc le premier roman de Carson McCullers, « Le cœur est un chasseur solitaire » dans la collection « La Cosmopolite » chez Stock, où, on l'a déjà dit, ont paru simultanément « La balade du café triste » préfacée par Eva Ionesco, Frankie Adams préfacée par Arnaud Catherine, L'horloge sans aiguille préfacée par Nelly Capriel-Lyon et Reflet dans un œil d'or préfacée cette fois par Tennessee Williams, rien que ça.
Magnifique.
Et d'ailleurs, c'est après avoir découvert Tennessee Williams que vous avez rencontré, littérairement parlant, Carson McCullers. Racontez-nous ça.
Oui, j'ai d'abord lu Tennessee Williams, en fait. Je lisais des pièces de Tennessee Williams, j'adorais, en fait, Tennessee Williams. Mais dans tout ce que
Qu'est-ce
ça
que vous
aussi
adoriez,
de...
alors, chez
bah,
lui
dans tout ce que ça, de... tout à l'heure, on parlait du côté sentimental. Il le dit d'ailleurs, Tennessee Williams, il fait une distinction entre la littérature européenne, qu'il trouve philosophique et intellectuelle, et puis la littérature américaine, qui a fait le choix en fait du narratif, du romanesque et puis du sentimental. Je pense que là c'est quand même assez valorisant, je pense, dans sa bouche. Et il y avait quelque chose quand j'étais adolescente, une jeune adolescente, qui me fascinait justement les frics dont on parlait tout à l'heure, les monstres, les gens à côté, les gens dans la marge. C'était quelque chose qui me fascinait complètement. Et du coup, j'ai lu en fait beaucoup de théâtre américain de Tennessee Williams ou de Albee ou de Aggie ou de Miller, qui était un théâtre qui justement mettait en scène les exclus. Et j'avais l'impression en effet que les exclus avaient plus de choses à m'apprendre que le reste du troupeau, ce qui, je pense, assez vrai en vrai.
Donc ce que vous aimez peut-être chez Carson McCullers, comme peut-être dans la littérature américaine, c'est le lyrisme, c'est le sentiment.
Alors, je ne suis pas sûre que ce soit le lyrisme que j'aime chez elle. Alors, quand tout à l'heure, je disais, en fait, c'est en lisant Tennessee Williams, et quand j'ai lu qu'il l'avait rencontré, qu'il l'a eu avec écrit, c'était la première fois qu'il écrivait à un confrère, parce qu'il n'a pas dit une consoeur, un confrère, et que du coup, il se dit, il faut que je lui écrive pour lui dire combien j'admire son travail. Je me suis dit, il faut, c'est comme ça que ça marche, les affinités électives. Vous êtes tout seul, vous avez 12 ans, vous ne savez pas très bien comment faire pour créer comme ça un petit monde, un petit univers de des livres, une bibliothèque idéale, un univers idéal de livres qui vous fortifieront. Et en fait, c'est comme ça que ça avançait. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Carson McCullers. Et chez elle, alors là, il y a une forme de lyrisme, oui, mais moi, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est justement dans Le cœur est un chasseur solitaire, c'est le fait que ce soit comme une espèce de symphonie. Tout à l'heure, on parlait de Frankie Adams en disant il y a un personnage principal. Et moi, ce que j'aime dans Le cœur est un chasseur solitaire, c'est justement cette espèce de déploiement qu'il y a autour de tous ces personnages, qui, en effet, sont des personnages qui gravitent autour de cet astre qu'est John Singer, le sourd-muet. Tous, ils sont autour de lui et ils restent périphériques, ils restent dans leur solitude. Mais il y en a un que j'aime tout particulièrement, et je pense qu'il représente pour moi exactement ce que j'aime dans le théâtre de Tennessee Williams ou la littérature de McCullers, c'est le personnage de Biff. Vous savez, c'est le personnage qui est tendre, qui est à la fois, vous savez, tous ces personnages qui sont à la fois tendres et fracassés, qui sont déchirés.
Donc c'est Biff, lui, c'est celui Biff, c'est le, oui, c'est, qui a un restaurant.
C'est lui qui a un restaurant et il aime beaucoup, en fait, Mick, la petite jeune fille, qui est un personnage qui ressemble beaucoup à Frankie Adams. Et cette petite jeune fille, il la regarde et ça l'intéresse. Mais non seulement elle l'intéresse, mais il a aussi des sentiments de tendresse pour elle, qu'elle ne perçoit pas du tout, et où elle ne veut pas percevoir. Et puis, il y a aussi toutes les autres personnes qui viennent dans son restaurant et qu'il regarde derrière son comptoir toute la nuit. Et d'ailleurs, il dit « j'aime les monstres ». Et ce personnage-là, justement, il est moins centré sur lui-même que les autres. Il est moins solipsiste, comme on me disait tout à l'heure. Les autres, en effet, ils se suffisent à eux-mêmes, en fait, dans leur solitude. Je crois même qu'ils subissent leur solitude, mais ils en jouissent aussi, d'une certaine façon.
Oui. Et pourtant, c'est un roman forcément de jeunesse, puisque c'est le premier roman de Carson McCullers. Et pourtant, vous semblez dire que c'est le roman qui est peut-être le plus ouvert sur l'altérité.
En fait, je ne sais pas si c'est celui qui est le plus ouvert sur l'altérité. Je suis quand même assez convaincue que les premiers textes qu'on écrit, justement, encore plus aveuglément que ceux qu'on écrit plus tard, parce que comme elle a eu un énorme succès avec Le cœur est un chasseur solitaire, c'est très difficile. D'ailleurs, c'était Tennessee Williams qui disait « Le succès est une catastrophe ». Parce que, évidemment, le problème, c'est qu'après, vous pensez, enfin, elle ne peut que penser, en fait, à la réception, quand même, aussi de ces textes. Donc, je pense que le premier texte, le texte qu'elle publie à 23 ans, il est d'une radicalité, finalement, que moi, qui m'enchante. Et en effet, quand je lis ce texte et je me dis, elle le publie à 23 ans, donc ça veut dire qu'elle l'a écrit, elle avait, je sais pas, 20 ans, 21 ans, je suis sidérée par son acuité, par son amour, en effet, des marges, mais ça, c'est pas encore exceptionnel à 20 ans, mais c'est surtout cette espèce de lucidité. Elle comprend les tout petits enfants, les vieilles personnes, les vieux messieurs malheureux, les vieux communistes aigris, les fous. Elle comprend tout ça. Et ça, c'est cette intuition qu'elle a des êtres, des autres. C'est vraiment étonnant.
Et puis, il y a cette amitié entre deux sourds-muets. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux personnages et de ce qu'ils représentent, selon vous, dans ce roman?
Et d'ailleurs, le livre commence avec eux. J'aime bien d'ailleurs le début du livre. D'ailleurs, j'adore les débuts des livres des Carson McCullers. C'est toujours une proposition. Allez, on vous fait entrer dans une... Maintenant, je t'embarque. Allez, maintenant, suis-moi, si tu veux, et on va raconter une histoire. Et là, en fait, elle commence avec le fait que, je ne sais plus exactement la phrase, mais
dans une petite ville... Voilà. Il y avait dans la ville deux muets qui ne se quittaient jamais.
Ça, c'est génial, on dirait un début de conte. Et en effet, ces deux personnages, il y a Singer qui est donc le sourd-muet qui va être l'astre dont je parlais, celui autour duquel chacun va se tenter de se positionner dans l'histoire. Et puis lui, il voue une amitié passionnelle, qui est en même temps une amitié qui se dirige vers un homme qui est un enfant dans sa tête. Enfin, il est déficient mentalement. Et donc, c'est très troublant, leur amitié. Et puis, ils ont besoin l'un de l'autre. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en effet, ce sont des sourds-muets, donc ils sont totalement isolés. fondamentalement isolés et ils sont très attachés l'un à l'autre. Alors Singer, plus que Antonopoulos, qui lui, évidemment, vu qu'il n'est pas totalement normal, en fait, n'a pas une relation classique à Singer.
Alors on va se mettre un petit peu dans l'oreille le texte de ce livre, Le cœur est un chasseur solitaire, avec un extrait qui est en rapport avec le personnage de Mick.
Mick s'assit sur les marches, la tête sur les genoux, et rentra dans l'espace du dedans. Pour elle, il y avait deux espaces. L'espace du dedans et l'espace du dehors. L'école, la famille, les événements du quotidien s'inscrivaient dans l'espace du dehors. Mr. Singer était dans les deux espaces. Les pays étrangers, les projets et la musique occupaient l'espace du dedans. Les chansons qu'elle imaginait et la symphonie. Quand elle était seule dans l'espace du dedans, la musique qu'elle avait entendue le soir de la fête lui revenait. Cette symphonie poussait lentement, comme une grande fleur dans son esprit. Quelquefois pendant la journée, ou le matin à l'instant de son réveil, une nouvelle partie de la symphonie lui apparaissait brusquement. Il lui fallait alors s'isoler dans l'espace du dedans, l'écouter plusieurs fois, et tenter de la fondre dans les passages qu'elle se rappelait. L'espace du dedans était un endroit très secret. Au milieu d'une maison pleine de monde, Mick pouvait y rester enfermé à double tour.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Carson McCullers avec Véronique Ovaldé. Il y a un sentiment terrible tout de même qui se ressent dans cet extrait, qui est le dedans, le dehors et donc l'exclusion. On revient toujours un petit peu à cette idée de la solitude et de l'exclusion chez Carson McCullers.
Je pense qu'en fait, tout ce qu'elle a écrit après ce roman est quand même des variations, mais comme souvent chez les artistes, chez les écrivains, c'est des variations en fait du même. Oui, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tout y est, évidemment. Et puis ce désir de faire partie du nous dont on parlait dans Frankie Adams. Elle a un vrai désir d'être dans le nous et elle est dans cette maison pleine de monde et elle est très seule. Et ça m'évoque quelque chose que Carson McCullers disait à propos des écrivains américains, et la différence qu'elle établissait entre les écrivains américains et les écrivains européens, elle disait que les écrivains européens, ils créaient des écoles, ils créaient des mouvements, en fait, et des mouvements de, voilà, d'artistes. Mais en fait, que l'écrivain américain était une sorte de franc-tireur. Et d'ailleurs, on le voit, c'est très clair dans ce titre. Le cœur est un chasseur solitaire. On le voit bien, cet écrivain, comme un chasseur solitaire. Et c'est aussi d'ailleurs un titre qui m'a toujours étonnée quand j'ai lu ce livre, quand j'étais gamine. C'était le fait qu'elle utilisait le mot chasseur, en fait. Mm-hmm. Et parce que je me suis dit, c'est quand même assez. C'est comme si, nécessairement, ce cœur cherchait une proie. Mm. Et je me posais plein de questions sur cette solitude et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle nous propose? Qu'est-ce qu'elle peut proposer comme antidote à la solitude? Et il me semblait qu'en fait, elle tentait des propositions une proposition sur l'amour et la camaraderie. Qu'il y avait quelque chose de possible là.
Il y a que l'amour qui peut transformer le moi en nous.
Il n'y a que l'amour qui peut transformer le moi en nous. Mais après, justement, c'est ça aussi qui est terrible. C'est que dans les textes qu'elle écrit après, puis quand on connaît un peu ce qui s'est passé dans sa vie, c'est évident qu'il y a évidemment un échec du nous. Il y a un échec de l'amour. On n'est jamais sauvé, en fait, par l'amour. Et donc, il faut faire avec notre nature profondément périssable et solitaire. Et ce n'est pas simple, évidemment. Ça, je ne nous apprends rien. Mais c'est quelque chose qu'elle déploie merveilleusement dans ce texte.
Alors, vous rappelez que quand elle avait 4 ans, Carson McCullers est passée devant un bâtiment. La porte était ouverte et elle a vu des enfants à l'intérieur de ce qui était une cour, vraisemblablement.
Oui, c'était un couvent, je crois, où il y avait des enfants, en fait, ouais, qui jouaient. Et elle est passée devant... Et tout à coup, elle s'est dit, mais là, il se passe quelque chose et je voudrais faire partie, je voudrais être dans cette fête. Et le lendemain, en fait, quand elle est repassée, la porte était fermée. Et la porte n'a jamais plus été ouverte. Et cette impression de ne pas être dans la fête, d'être exclue de la fête, on n'aime pas ça quand on est enfant, hein, avoir l'impression d'être exclue de la fête, d'être le seul qui n'est pas invité à l'anniversaire. Et donc, c'est quelque chose qui est comme une blessure. Qui va rester, en fait. Et c'est quelque chose qui, je pense, dit la douleur, le chagrin, en tout cas, de McCullers.
Alors, on parlait un peu de musique aussi en première partie de cette émission. Vous considérez que finalement, avec ce roman, on est convié à une pièce musicale. Qu'est-ce qui est musical pour vous dans ce livre ?
Je pense qu'il y a la façon dont elle met en place... Justement, les personnages, on a l'impression qu'au milieu, l'astre dont je parlais, la John Singer, déjà il s'appelle Singer, et il est comme un personnage qui va être le chef d'orchestre de tout ce qui se passe. Et elle va, de chapitre en chapitre, très très précisément, nous présenter une partie de ces instruments. Parce que les personnages du Cœur est ta chanson solitaire, il y en a à peu près 5, je crois, qui tournent autour de John Singer. Et ils sont tous présentés les uns après les autres. Et ils ont envie de s'accorder.
Donc c'est moi, un quintet.
Oui, je me suis dit, c'est comme un quintet et qui voudrait s'accorder et ils sont incapables de s'accorder. Et d'ailleurs, au moment où ils vont se rencontrer autour de John Singer, ils vont rester définitivement isolés. Mais c'était quelque chose, cette tentative d'accord était pour moi quelque chose, était une tentative musicale.
Et c'est peut-être aussi une prouesse d'écrivain, vous allez nous dire ça, vous qui êtes vous-même écrivaine. En tout cas, c'est ce que pensait Gore Vidal. Il l'avait dit au New York Times. Sur le plan technique, disait-il, cela vous coupe le souffle de voir comment mademoiselle McCullers met en place une scène, puis épingle un personnage après l'autre, faisant d'une phrase, d'une ligne, naître une vie. Et en fait, c'est aussi ça qui, sans doute, est choquant pour un écrivain, de voir à quel point la maîtrise technique arrive très jeune à Carson McCullers.
Oui, mais alors c'est drôle parce que tout à l'heure, on parlait du fait qu'en effet, elle écrivait un peu à l'aveuglette et en même temps, je me souviens que de ce livre, il me semble, Le cœur est un chasseur solitaire, qu'elle avait fait un plan. Il me semble qu'il y avait un plan assez précis. Donc peut-être qu'il a dû être écrit en cours il a dû être fait en cours d'écriture, mais en effet, il y a quelque chose d'assez magnifique et magique dans sa maîtrise et dans la manière dont elle va orchestrer finalement toute cette tragédie, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du tragique. Et qui est le personnage le plus tragique? Évidemment, John Singer, il est absolument tragique. Mais Mick, elle est tragique. Mick, c'est comme on disait tout à l'heure, Frankie Adams, à la fin du texte, du livre, en fait, elle devient banale. En fait, elle grandit. Et elle n'est plus cette adolescente, elle n'est plus dans l'enfance magnifiquement solaire, et elle n'est plus dans cette frontière difficile qu'est l'adolescence. Elle passe de l'autre côté, du côté des adultes, donc du côté du renoncement. Et en fait, il se passe la même chose pour Mick. Donc finalement, deux livres avant Frankie Adams, c'était deux livres avant, je crois que c'est son troisième Frankie Adams. En fait, elle est déjà dans cette, il me semble, McCullers, elle est déjà dans cette douleur, en fait, d'avoir perdu quelque chose de l'enfance, bien sûr, mais aussi de l'adolescence. Et que ça serait comme une sorte de trésor qu'il faudrait absolument garder en soi, conserver, parce que sinon, on devient un adulte triste et banal.
Et oui, ça c'est tragique, en effet. Alors, est-ce que pour vous, Faulkner est une inspiration, comme le disait Marie-Claude Perrin-Chenour, une référence? Est-ce que pour vous, on peut mêler un petit peu ces deux écritures, les mettre sur le même plan, Véronique Ovalde?
Les deux écritures, je ne sais pas. Alors, dans celui-ci, il y a quand même le fait qu'il y a toutes ces voix, en fait, finalement, tous ces personnages qui passent les uns après les autres. On a donc pas de focalisation sur un personnage, ce qu'on a aussi beaucoup dans Faulkner. Mais alors, lui, où il l'utilise, est beaucoup plus radical.
Oui, c'est ça.
dans sa forme. Après, les liens qu'il y a, évidemment, c'est en effet des écrivains du Sud, mais il faut surtout pas se dire, bon, les écrivains du Sud, qu'est-ce que c'est? C'est des écrivains régionalistes. Mais ce sont des écrivains, quand même, je pense, qui portent, quand même, toute, justement, on parlait de tragédie, ils portent toute la tragédie de la ségrégation sur leurs épaules aussi. Et voilà, ils ont quand même un, on va dire, ils ont un petit.
Donc c'est une autre musique du Sud, c'est une autre interprétation de la même histoire tragique.
Oui, je pense qu'en fait c'est quelque chose. Alors sans doute de plus sentimental. On parlait tout à l'heure de quelque chose de sentimental. Il y a quelque chose de plus tendre chez elle. Elle met en scène des personnages que on sent qu'elle les aime beaucoup. En fait, elle a une tendresse particulière pour chacun d'eux.
Un grand merci à vous, Véronique Ovaldé, de nous avoir donc parlé de ce beau roman de Carson McCullers. Le cœur est un chasseur solitaire dont vous avez rédigé la préface à la réédition parue cette année chez Stock. Je rappelle que vous avez publié également cette année le conte intitulé À cause de la vie avec des illustrations de Johan Sfar. C'est aux éditions Flammarion. La semaine prochaine, dans la compagnie des auteurs, 4 émissions sur le thème des écrivains aventuriers. Mais tout de suite, quelques minutes de poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous. Voyage étonnant avec Bernard Collin qui écrit 22 lignes par jour et il sort de sa pensée. C'est chez Fata Morgana. Ça vient aussi de ressortir un livre qui s'appelle « Copiste » aux éditions Nous. Que les pensées entrent dans l'eau, l'eau qui se divise et laisse un chemin sec au milieu pour passer est une eau intelligente. Si elle obéit, elle entend et elle voit, retournez à votre place où celui-là était d'une autre espèce, je découvre, et de plusieurs natures animales sans langage qu'on puisse écrire. On a le sentiment, oui, d'une écriture ruban, d'une forme de poésie en écriture automatique. Tiens, prenons cet autre-là. Que la pensée vient du sol. Elle se lève comme le flot du commencement. Là où le pied touche par terre, c'est pourvu de sens. Si vous touchez, elle est à cet endroit et se lève, c'est vrai, parce que le pied du lecteur est plus tard regardant et pensant, revenant, et la lumière sur les pieds et le sol, enfin il voyait et comprenait ce qu'il avait lu, quelque chose ensemble venant. Et revenir plusieurs fois où vous aimez, où vous cherchez, la lumière toujours posée sur les lignes marchant dessus, du contact. Il y a une tortue qui cherche à venir ici. Le lecteur sur la ligne comme l'inscription sur la carapace de tortue. En Chine, on écrivait la demande sur la carapace du ventre et après passer au feu et correctement lu, la carapace donnait la réponse. Les os divinatoires, le pointillé des os qui s'engrènent pour deviner comme si l'os était devin ou la truffe venait du chêne, la carapace de tortue chinoise bien lavée est faite pour ce travail. Cette vapeur qui grimpe du sol vous enveloppe le cerveau et toutes les prières obtenant leur réponse, le dévot ajoute « comme il vous plaît, ce que tu veux ». Ton serviteur écoute, ton serviteur inutile et borgne, et l'œil qui lui reste voit trouble. Selon tes yeux parfaits, c'est écrit sur le ventre de la tortue. Un os ne peut pas tromper. Ouf, c'est dense, enfin, ça fait du bien de souffler un peu quand même. Dans le texte qui suit, qui est comme un conte, ben, ça nous changera, ça nous fera du bien. Écoutons, la tempête avait arraché le pont. Que ferais-je de ma grande taille, se demandait le géant. Le sommet des arbres lui arrivait à peine aux genoux. Nulle part un poteau pour l'attacher. Que ferais-je de ma grande taille au bord de la rivière? Le géant avait fait la promesse. Là où mon corps sera enterré, vous ne sentirez plus la tempête. Chacun venait demander un morceau qui protège. Partout où un morceau sera enterré, et quand il n'était plus rien resté du bon géant, avance d'une moitié de ligne, par portion à plusieurs aujourd'hui, marche sur l'eau en colonne, attendons soleil, l'épaisseur des murs, 1000 espèces fait tenir sur le mur, la rivière sera navigable partout où un morceau sera tombé. Où trouverai-je une ligne assez longue? Miette, et révélation qu'il n'y avait pas de ligne pour l'attacher. Et aussitôt qu'il n'y a pas de vie séparée d'elle, si l'écriture est derrière eux, la vie derrière aussi. Bernard Collin est né en 1927, écrivain la semaine, peintre le dimanche. Copiste vient de sortir aux éditions Nous.
Merci Jacques Bonafé.